Lecture et relecture. La chronique de Jacques Rigaud sur Canal Académie.
Le livre qu'a publié récemment Jean-Marie Roir de l'Académie française a pour titre « Le devoir d'insolence ». C'est un journal, en réalité, qui va de septembre 2007 à mars 2008. Le bandeau rouge qui l'accompagne est ainsi libellé, je cite, « une année de sarkozysme absolu ». Ce qui est assez exagéré, puisque ce sont seulement 6 mois, d'octobre 2007 à mars 2008, qui sont couverts. Et c'est trompeur, car on pourrait en conclure qu'il est question du président vedette à toutes les pages, à toutes les lignes, comme dans la bonne trentaine de livres qui ont fleuri depuis un an sur Nicolas, sur Cécilia et maintenant sur Carla. Autant de sujets en or pour la littérature de l'immédiate, autant de faux écrivains et de vrais bons auteurs comme Marc Lambron se complaisent. Lambron, justement, nous avait donné l'an passé un savoureux portrait de Ségolène Royal où sa rosserie brillait de 1000 feux. Avec Eh bien danser maintenant, qui a comme fil rouge une des formules à épate de toutes les 3 lignes, il finit par lasser ses plus fidèles admirateurs, dont je suis. Mais venons-en à Jean-Marie Roir. Ce journal parle bien sûr de Nicolas Sarkozy et de ses épouses successives, mais il n'en est pas obsédé. On y trouve des échos de toute l'actualité de France et du monde. On parle du Tchad, du Kosovo, du Pakistan, de l'Europe. Il y a aussi de beaux portraits de certains de ses confrères de l'Académie, Pierre Messmer, Jean d'Ormesson, Jean-François Revel. Il y a aussi des portraits de Gracq, de Simone de Beauvoir, des souvenirs d'enfance, des rêveries. Romancier, Jean-Marie Roir a été et demeure aussi un journaliste. Il a sur l'actualité et sur ceux qui la font un regard de romancier. Du journaliste, il a conservé l'impertinence et peut-être, à certains moments, l'insolence qu'il revendique. Le regard de Roir sur la politique, je le qualifierais, et ça n'est pas du tout péjoratif dans mon esprit, de rafraîchissant. Par rapport au pédantisme de bien des chroniqueurs politiques, il ne s'embarrasse pas de théories sur les institutions. Il ne s'amuse pas à expliquer la Constitution, les régimes politiques. Il parle de ce qu'il sent. Il n'est pas malveillant et ses coups de patte sont tous azimuts. Raffarin, Villepin, Giscard, Bayrou en prennent pour leur grade tout autant que Delanoë, Attali et Besancenot. Ses portraits sont vifs. Il ne cache jamais la sympathie qu'il éprouve pour ceux qu'il décrit, même si ils sont très éloignés de ses propres opinions. Il a même une attitude assez étrange sur Le Pen. Il n'est évidemment pas d'accord avec ses idées, mais le personnage, sa truculence, son goût des mots l'attire. Le vieux cœur d'adolescent, je cite Roy, s'émeut souvent et apparaît au détour d'une phrase. Il décèle avec talent les contradictions de ses modèles, un peu comme si cela le consolait des siennes. Jospin, Kouchner font l'objet de sa sympathie, même s'il les critique. Dans certains cas, Roir ronchonne, avec parfois des accents presque poujadistes. Mais le portrait qu'il trace de lui-même dans ce journal est finalement très attachant. D'un journaliste devenu académicien, on s'attendrait à ce qu'il prenne la pose et fasse la leçon à la terre entière. Pas du tout. Jean-Marie Roy est resté un esprit libre. Classé généralement à droite, il n'est ni réactionnaire, ni conservateur. Il a, sur l'écologie, sur l'économie, le profit aux dents d'acier, dit-il, des propos qui sont assez sévères. On se souvient de ses prises de position en défense d'Omar Radad, le fameux Omar m'a tué, ou une position pour défendre les prostituées. Ni conservateur ni réactionnaire, je disais, c'est un classique, mais un classique inclassable. Cet homme du monde a une générosité qui ne trompe pas. Il écrit à un moment donné, « Vivre, c'est écrire, mais aussi aimer, s'indigner et témoigner. » C'est ce qu'il fait. Il dit « Je préfère être dans l'erreur, y persévérer, que renoncer à la sincérité. J'avoue mon faible pour l'art qui embellit la vie. » À la limite, c'est courageux dans le monde actuel où la pensée unique fait que toute réserve vis-à-vis de l'art contemporain apparaît comme quasiment inavouable, comme Jean Clair, il dit carrément quel est son point de vue. Je parlais de ses portraits, celui de Besancenot, c'est inattendu, mais ils se sont rencontrés. Il dit c'est le bébé cadom de la Révolution. Avec son visage poupin, son regard ingénu, son air d'adolescent bien élevé, de facteur rural qui n'apporte que de bonnes nouvelles, il incarne à gauche notre frénétique désir de romantisme sans risque. Je crois que c'est assez intéressant. Et je recommande les dernières pages où il revient à Nicolas Sarkozy avec un jugement qui, là encore, n'est pas dépourvu de sympathie, d'intérêt, mais en même temps d'une certaine sévérité. On peut appeler ça de l'insolence. Sarkozy, dit-il, me passionne comme un phénomène. C'est un prototype curieux de Français décalé, sérieux quand il faut être léger, futile quand il faut être grave. Voilà ce que je peux dire de ce devoir d'insolence. L'insolence n'est jamais un devoir, elle est toujours un droit. Celle que exprime Jean-Marie Roy dans ce livre est savoureuse, dans l'ensemble assez bienveillante, et fait de lui un personnage attachant. Puisque cette chronique s'appelle « Lecture et relecture », je voudrais dire à nos auditeurs un mot d'un grand événement littéraire de cette année. C'est la parution dans la Pléiade d'œuvres de Claude Lévi-Strauss qui va fêter son centenaire. Bon, il n'est pas le premier auteur à entrer vivant dans la Pléiade. Ce fut le cas d'André Gide, de Marguerite Yourcenar, de René Char, de Nathalie Sarraute, de Saint-Jean de Perse. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les œuvres complètes de Claude Lévi-Strauss. Il a fait lui-même le choix des œuvres qui sont dans ce livre. On y trouve évidemment son Triste Tropique, où il se libère des contraintes de l'ethnologue pour parler de son métier comme un honnête homme, comme un humaniste qu'il est. La pensée sauvage, quelques écrits sur les mythes, et puis lire, aimer, où il fait des portraits de Poussin, de Rameau, de Breton, d'un certain nombre d'auteurs. Donc le choix est le sien. Les ouvrages les plus savants, les plus hermétiques, disons, ne sont pas dans ce livre. C'est un bonheur de lecture qui nous est proposé avec des inédits, des notices qui n'avaient pas paru depuis les éditions originales et des ajouts que Claude Lévi-Strauss nous donne. Je ne veux pas donner un caractère funèbre à cette expression de vie d'un très grand auteur. Ce que je voudrais simplement noter, c'est que, sans parler de je n'ai aucune compétence de son côté savant, c'est un écrivain. L'amour des mots, la clarté de la pensée sont véritablement des modèles et je crois que c'est extrêmement important pour le futur qu'il entre dans ce panthéon littéraire qu'est la Pléiade. Même ceux qui ne sont pas familiers de la pensée de Claude Lévi-Strauss sont là une occasion unique d'aborder un grand auteur de notre époque.